Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Bien, comme je le disais tout à l'heure, les artistes congolais font preuve d'une créativité extraordinaire. Cependant, peu d'entre eux tirent profit réellement de leur production à cause de la piraterie. En plus, certains accusent leur société d'affiliation de mal gérer leurs droits perçus auprès de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique en France, et de la SABAM, Société d'auteurs belges, par rapport à leurs œuvres vendues à l'étranger. Alors, que faire pour mieux gérer les droits d'auteur et les droits voisins, même après la mort de l'artiste? Alors, pour avoir des éclaircissements par rapport à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui Maître Théodore Nganzi, spécialiste en droit d'auteur et droit voisin. Encore une fois, bonjour Maître.
Bonjour,
c'est alors, jeudi. C'est quoi? On parle souvent des droits d'auteur, droit voisin. De quoi s'agit-il?
En fait, les droits d'auteur, pour faire simple, c'est les salaires différés de l'artiste. Il est destiné à l'artiste vivant ou décédé.
Salaire différé.
Voilà.
Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est la rémunération de l'artiste tirée qui est basée sur l'exploitation des œuvres de l'artiste. Cette exploitation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la communication des œuvres publiques, ça peut être la reproduction des œuvres sous forme de support. Ça peut aussi être sous forme de rémunération liée aux copies privées que nous réalisons sur les œuvres, ou encore à l'exploitation des phonogrammes à la télévision ou à la radio. Voilà ce qu'on appelle exploitation des œuvres de l'esprit. Ça concerne non seulement les œuvres musicales, mais aussi les œuvres littéraires, cinématographiques et autres.
Voilà, vous parlez de différents types d'utilisation de l'œuvre. Oui. La communication, vous avez parlé d'abord de la communication.
Oui.
De l'œuvre, qu'est-ce que cela veut dire?
La communication publique, c'est le fait de faire percevoir l'œuvre directement au public par la vue ou par lui. Par exemple, un concert, un spectacle vivant, c'est une forme de communication de l'œuvre au public. Le fait de diffuser l'œuvre par la radio, c'est aussi une forme de communication de l'œuvre au public. Par exemple, une œuvre musicale, lorsqu'elle est diffusée à la radio, à la télévision, c'est une forme de communication au public de l'œuvre. Mmh. Oui. Ça peut aussi prendre la forme d'un spectacle vivant. Un concert, par exemple, c'est une forme de communication de l'œuvre musicale au public. Mais l'exposition des œuvres graphiques et plastiques au public est aussi une forme de communication de l'œuvre au public.
Mmh. Mais la reproduction sur support, il y a des maisons qui font ça. Mais on le voit par exemple ici au grand marché de Kinshasa, on vend, dès qu'un album est sur le marché, vous allez quelque part là, vous allez le retrouver à moindre frais, le CD à moindre frais.
Ouais, là ce sont des reproductions illicites. Normalement, la reproduction de l'œuvre est soumise à l'autorisation de l'auteur parce que l'œuvre est couverte par les monopoles de l'auteur. Alors lorsqu'on reproduit une œuvre sans l'accord de l'auteur, on est dans une reproduction illicite.
Qu'est-ce qu'on appelle le copyright?
Non, ce que nous appelons la contrefaçon, c'est le fait de reproduire ou d'exploiter une œuvre sans l'accord de l'auteur. Ça devient un délit civil ou pénal. C'est la contrefaçon qu'on appelle couramment piraterie, mais le terme technique juridique, c'est la contrefaçon.
Donc on ne peut pas reproduire sans l'autorisation?
On ne peut pas reproduire sans l'autorisation de l'auteur. Alors, mais la loi prévoit des exceptions qu'on appelle la copie privée. Nous pouvons faire une copie pour l'utilisation personnelle, mais dans ces cas-là, il y a une rémunération compensatoire qui est prévue par la loi, qui doit être perçue par l'organisme chargé de la gestion collective, donc la SOCODA, pour compenser ces manques à gagner dus aux différentes copies privées. Mais en dehors de cette hypothèse, toutes les autres formes de copies deviennent illicites lorsqu'elles sont réalisées sans l'accord de l'auteur ou de son ayant droit.
Donc avant de faire toute copie, il faut aller verser, payer à la SOCODA.
Oui, il faut chercher l'autorisation de l'auteur ou de la SOCODA pour couvrir cette reproduction. Sinon, ça devient une reproduction illicite. Mmh. Et cela vaut aussi pour toute forme d'exploitation de l'œuvre, la communication au public, et ainsi de suite.
Le fait de jouer la musique à la télé, à la radio
C'est une forme de communication au public de l'œuvre. Elle doit être couverte par une autorisation de la Société des droits d'auteur parce que ça cause un préjudice aux auteurs. Et les auteurs doivent vivre de cela. Et c'est couvert par la loi. C'est la loi qui impose cette exploitation, qui rend cette exploitation légale, si elle est couverte par l'autorisation de la société des droits d'auteur. Autrement, ça devient une exploitation illicite.
Alors, quelles sont les raisons, généralement, qui font que dans notre pays, les droits d'auteur ou les salaires différés des artistes n'est pas assuré comme il se doit?
Bon, les responsabilités sont à établir à différents niveaux. Il y a d'abord la responsabilité de l'État. L'État a la mission normative, parce que l'État a l'obligation constitutionnelle de protéger le patrimoine culturel national. Ça, c'est la Constitution qui le dit à l'article 46. Mais le pouvoir central a aussi la compétence exclusive de légiférer sur la propriété littéraire, artistique et même dans le domaine de la propriété industrielle. C'est l'article 202.19 de la Constitution. Mmh. C'est une matière de compétence exclusive du pouvoir central. À partir de ce moment-là, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, a la mission de préparer des projet de loi pour légiférer dans le domaine de la propriété littéraire et artistique. Et à côté de l'aspect législatif, il y a aussi l'aspect réglementaire. Donc l'État doit prendre aussi des mesures réglementaires, des arrêtés, pour accompagner, pour faciliter l'application de ces lois. Mais l'État doit aussi accompagner les artistes. Il peut le faire comment? En organisant la gestion collective de leurs œuvres. Ça peut passer par un service public, comme on le voit dans certains pays africains, mais ça peut aussi passer par une société privée, coopérative, comme c'est le cas avec la Sokoda. Et surveiller le fonctionnement de ces sociétés pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Mmh. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Deuxième niveau de responsabilité, c'est au niveau de la société de droits d'auteur elle-même. Cette société doit fonctionner selon les règles de bonne gouvernance et de transparence. C'est-à-dire que l'organe de gestion, qui est le conseil d'administration, doit gérer selon les normes modernes de transparence et de bonne gouvernance. Alors, si les artistes s'amusent en faire une affaire des copains, du coup, on retombe dans la mauvaise gestion. Et c'est ce qui arrive très souvent lorsqu'ils sont distraits. Et pour cela, ils doivent s'appuyer sur le personnel de la société. Le directeur général, qui est un manager bien formé, doit les aider régulièrement. Mais s'ils s'entêtent, ils retombent dans les erreurs. Et ça, nous devons veiller à cela. Et l'État doit surveiller aussi le fonctionnement de ces sociétés.
Parce que Cette société a eu trop de problèmes.
Parce qu'on a laissé faire. Et très souvent, on les laisse faire. Quand ils sont des conflits interminables, ce sont souvent des conflits d'intérêts. Des groupes qui s'affrontent, c'est par rapport aux intérêts financiers. Alors, il faut les surveiller pour qu'on ne retombe pas dans cette mauvaise gestion. Même en Europe, les grandes sociétés de droits d'auteur sont surveillées par l'État. Il y a des missions de contrôle, des contrôles budgétaires, des contrôles de gestion. Et à l'interne aussi, il y a des missions d'audit, des audits externes par des fiduciaires qui sont payés pour cela. Donc il faudrait qu'on arrive à cela si on veut aller de l'avant. Sinon on va retomber, on va recommencer à zéro et tout le temps ils vont continuer à se plaindre. L'État doit veiller pour que tous les artistes tirent profit de l'exploitation des œuvres à travers la société des droits d'auteur.
Et pourquoi c'est pas le cas ici chez nous? Les artistes se plaignent beaucoup.
Les artistes se plaignent, oui c'est vrai, mais ils ont aussi une part de responsabilité parce qu'ils ne se forment pas. Les corporations d'artistes ne sont pas suffisamment organisées pour organiser un plaidoyer auprès de l'État, pour suivre de près ce qui se fait auprès de leur société. Ils vont à la radio, à la télévision, ils se plaignent. Mais combien s'informent? Combien vont auprès du ministre pour parler sérieusement des problèmes techniques? Est-ce qu'ils s'appuient sur l'expertise locale? C'est ça aussi le problème. Donc je crois que ça devait devenir un débat public, en commençant par les artistes eux-mêmes. Tous les artistes ne sont pas mauvais. Il y a des leaders dans leur milieu. Il y en a qui réfléchissent très bien. Et ces petits noyaux-là doivent commencer à travailler pour transformer la situation sur terrain. Ce n'est pas une fatalité. Si en Afrique de l'Ouest, il y a des sociétés de droits d'auteur qui fonctionnent très bien, pourquoi pas chez nous? Et pourtant, nous avons un répertoire.
Et là-bas, les artistes ont quand même une vie, mènent une bonne vie.
Oui, en tout cas, il y a quand même un minimum de répartition qui se fait régulièrement. Par exemple, le cas du Sénégal, vous verrez qu'il y a quand même un minimum de bonne gouvernance. Parce que les artistes se sont appropriés ces débats-là du droit d'auteur. Je vous donne un exemple. En 2007, les artistes sénégalais avaient travaillé avec les experts pour produire un nouveau projet de loi sur le droit d'auteur. Et ils ont fait un plaidoyer rapidement. En 2008, ils ont obtenu la nouvelle loi sur le droit d'auteur. Mais chez nous, on a commencé le même débat à la même époque, en 2007. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2016, nous n'avons pas encore une nouvelle loi. Pourquoi? Parce que, quelque part, après le travail de l'expertise, il faut que les artistes s'approprient du dossier et fassent le plaidoyer auprès de décideurs pour arriver à obtenir des bonnes décisions. Mais parfois, il y a une cassure entre les artistes et les autorités politiques. Ils y vont, mais on ne sait pas ce qu'ils discutent avec les décideurs politiques. ils auraient dû continuer à discuter des problèmes techniques qui les concernent. Ils sont moins nombreux à le faire.
Mmh. Voilà. Alors, vous avez dit qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. D'abord, au niveau du pouvoir du gouvernement, il faut des lois. Est-ce qu'il n'y a pas des lois qui...
Nous avons une loi,
dans ce secteur-là,
une ordonnance-loi qui date de 1986, qui est aujourd'hui dépassée par les normes internationales et par l'évolution technologique, avec des questions de l'Internet et des nouvelles technologies. Mmh. Et je dois apprécier le fait que le ministre de la Culture, l'actuel, a pris l'initiative de mettre en place des commissions qui ont produit un nouveau projet de loi sur le droit d'auteur qui se trouve en examen auprès du cabinet du ministre, et nous espérons que très bientôt le projet pourra suivre son cours normal pour arriver au Parlement et être adopté sous forme de loi. Donc c'est le souhait. Mais il faudrait que les artistes suivent. Il faut qu'ils fassent des pressions auprès du ministre pour voir comment ce processus évolue. C'est très important. Parce que c'est eux les premiers bénéficiaires de cette nouvelle loi qui pourra être adoptée.
Mmh. Donc vous avez dit qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. On est au niveau de l'État,
la société. Et les artistes eux-mêmes, individuellement et en groupe. Parce que ce sont des leaders. S'ils s'organisent, ils posent des problèmes sérieux qui concernent leur corporation, des problèmes professionnels. Ils parlent d'un même langage, ils ont une même vision. Je crois qu'ils pourront arracher des grandes victoires. Mmh. C'est un problème de vision commune.
Or, souvent, nos artistes sont divisés.
Ils sont très divisés, il n'y a pas d'unité entre eux. Ils ont beaucoup de conflits personnels, ça les affaiblit. Au finish, ils ont des difficultés parce que quand un artiste meurt, finalement, on se rend compte que la société de droit d'auteur ne peut pas continuer à payer des droits à sa famille et il commence à se plaindre. Même quelle que soit sa grandeur, quand il meurt, c'est fini. Une année, deux ans, trois ans après, on n'en parle plus. Et comme la société des droits d'auteur ne fonctionne pas bien, c'est la famille qui en pâtit. Et ils doivent comprendre ça pendant qu'ils sont encore vivants, pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils parlent le même langage. Ils doivent voir qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt commun dans la défense de leurs droits. Et sur ce point-là, ils doivent tous parler le même langage. Même s'ils ont des conflits de vues, des conflits d'intérêts personnels, ils doivent se surpasser pour défendre des causes communes. Et c'est là où les artistes de l'Afrique de l'Ouest sont un peu différents de ceux de l'Afrique centrale, qui privilégient beaucoup de conflits d'intérêts inutiles et qui les affaiblissent finalement. Parce que ils n'ont pas les mêmes intérêts que le public, que les usagers, que les décideurs politiques. Et ils ont des intérêts professionnels à défendre, comme toutes les autres professions.
Mmh. Et aujourd'hui, dans notre musique, il y a des gens qui téléchargent même la musique sur Internet. Et normalement, on devait payer des droits pour le faire.
Oui, l'Internet n'est plus une zone de non-droit. En Europe, l'Internet est réglementé. Mais chez nous, nous avons un retard. On doit réglementer l'Internet en modifiant cette loi dont j'ai parlé de 86 sur le droit d'auteur. Mais il faut aussi renforcer avec des lois sur les communications électroniques. C'est important. Mmh. Pour déterminer les responsabilités des fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs de contenu, des propriétaires des sites web, les hébergeurs des sites, ils ont une responsabilité dans ce genre de questions. Et tous ces gens qui font le téléchargement en public devront aussi être sanctionnés parce qu'il faut les encadrer. Et ça, c'est le travail de la SOCODA et du ministère de la Culture et des Arts.
On le voit même à la cité, il y a des jeunes gens qui ont des ordinateurs au coin de la rue. Vous voulez acheter une carte SIM et puis on va vous mettre toutes les musiques. Ouais. Toutes les chansons que vous voulez.
Oui, on peut les encadrer. On peut les identifier, les recenser et leur demander de payer peut-être des petites autorisations, même à des taux faibles, de sorte qu'on puisse récupérer quand même un minimum de fonds, des recettes, pour compenser un peu le manque à gagner que les artistes subissent à ce niveau-là. Et puis tous les supports numériques là, qui circulent, les flash disques, les cartes mémoire, tout ça devait aussi être taxé en termes de rémunération à la copie privée pour compenser ces manques à gagner là. Ça pourrait toujours avoir un effet compensatoire et suppléer un peu le manque à gagner que les artistes subissent à cause de méventes de leurs disques en original.
Mmh. Moussa nous appelle de Kindou, bonjour.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capia et à l'invité. Oui, pour ce qui concerne la thématique, je vais juste me limiter à des petites questions. La première question demande d'abord, sur base de quoi qu'un artiste arrive à trouver un compte au moment où lui vit grâce à ses chansons? C'est-à-dire quoi? Il produit et il vend ses chansons et il consomme ses argent. Ça, je ne sais pas comment un artiste doit arriver à trouver un compte. C'est ça vraiment ma première préoccupation. Et ma seconde préoccupation demande les noms du salaire d'un artiste. Comment on appelle le salaire d'un artiste? J'ai dit et je vous remercie.
Merci, Maître Théodore.
Oui, l'artiste trouve son compte de plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle la gestion individuelle. Lorsque l'artiste produit une œuvre, il peut signer un contrat d'édition avec un éditeur pour produire les disques, par exemple. Et lorsqu'on vend les disques, l'éditeur peut le rémunérer individuellement. Mais il y a aussi une forme de gestion qu'on appelle la gestion collective. Lorsque ça passe par la société de droit d'auteur, la société de droit d'auteur va agir au nom de tous les artistes affiliés pour recevoir une rémunération auprès de restaurants, des hôtels, des cafés, des nightclubs qui diffusent la musique, auprès de radio et de télévision qui diffusent la musique. Et lorsqu'ils récupèrent cet argent-là, on va voir quelles sont les œuvres qui ont été les plus diffusées, par exemple, et on va payer les artistes proportionnellement au nombre d'utilisations de leurs œuvres. Ça, c'est aussi une autre forme de rémunération. Donc, il y a deux façons de rémunérer l'artiste. Individuellement, lorsqu'il signe un contrat, par exemple, il veut jouer un concert, il signe un contrat avec un producteur, là, on lui paye son cachet lorsqu'il est artiste-interprète, et on peut le payer à l'auteur dont les œuvres ont été utilisées, dont le répertoire a été utilisé, en termes de droits de représentation. Mais on peut aussi passer par la société de droits d'auteur, pour les cas de radiodiffuseurs, pour les cas des hôtels, restaurants, cafés, nightclubs, ainsi de suite. Voilà comment l'artiste peut se retrouver dans ces différentes formes d'exploitation de ses œuvres.
Par exemple, on voit ici tel artiste chante le répertoire d'un autre. Oui. À ce moment-là, est-il censé, est-ce qu'il est obligé de payer un droit?
Oui, en principe, lorsque vous exploitez le répertoire d'un autre artiste, vous devez payer, vous devez d'abord avoir l'autorisation d'utiliser ces répertoires. Si vous ne pouvez pas les joindre directement, vous passez carrément par la société des droits d'auteur et cette société vous donne l'autorisation et vous payez un droit qui va lui servir au moment de la répartition des droits. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Très souvent, si on n'arrive pas à atteindre l'auteur du répertoire, on peut passer par la société des droits d'auteur pour avoir l'autorisation et ça permettra à l'auteur de vivre, surtout lorsqu'il est vieux et qu'il n'arrive plus lui-même à prester. Il ne peut que vivre de l'exploitation de son répertoire par les musiciens qui sont encore plus actifs. Et même lorsqu'il est décédé, ce sont ses héritiers qui pourront continuer pendant 50 ans à profiter de l'exploitation de son répertoire par les musiciens qui sont actifs, qui sont sur scène. C'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà. Mais si, par exemple, j'interprète le répertoire d'un autre artiste, mais tout en indiquant que c'est lui le compositeur.
Oui, il n'y a pas de souci. Quand vous utilisez ça, c'est le droit moral. C'est-à-dire que vous devez indiquer le nom de l'auteur de l'œuvre. Mais il y a l'aspect patrimonial. Vous devez aussi payer pour que lui vive. À moins qu'il vous autorise à le faire gratuitement ou librement, là, vous ne payez aucun droit. Mais chaque fois que vous voulez utiliser un répertoire, il faut avoir l'autorisation. L'autorisation peut être gratuite ou payante, peu importe, mais il faut que vous ayez l'autorisation.
Prenons par exemple le cas de Papa Wemba qui vient de nous quitter. Aujourd'hui, il a produit plusieurs œuvres qui ont traversé des générations. Aujourd'hui, comment est-ce que la famille ou son équipe, le groupe, peut continuer à jouir de ses droits?
Justement, là, il faudra vraiment que, comme il était affilié à la Sokoda, il faudrait que nous puissions accompagner cette société de droits d'auteur pour qu'elle devienne performante. C'est au moment de la répartition. Lorsque les œuvres de Papa Wemba sont diffusées à la radio, c'est le cas aussi pour les autres musiciens qui sont décédés, comme Taboulay, Franco, lorsque leurs œuvres sont diffusées par les chaînes de radio et de télévision, lorsque leurs œuvres sont diffusées dans les Nganda, dans les terrasses, bien, tous ces exploitants doivent payer une rémunération, une redevance à la société des droits d'auteur. Et c'est grâce à cette redevance que leur famille...
Mais c'est une redevance annuelle ou bien elle est mensuelle? Comment ça se passe exactement?
Bon, actuellement, je crois que la Sokoda a pris l'option de redevance annuelle pour la communication publique des œuvres. Normalement, les radiodiffusions, les terrasses, ils payent une taxe et une redevance, je m'excuse, annuelle, mais qui pourront payer même par tranche, c'est pas un problème. Je crois que les plus petits usagers, selon les renseignements que j'ai reçus, payent $60 par an. Donc, en raison de $5 par mois. C'est vraiment un tarif qui est minimum. C'est une sorte de contribution à la création. Il faut soutenir les créateurs. Nous pleurons les artistes qui décèdent. Papa Wemba est décédé, c'était un grand. Mais si nous voulons vraiment aider sa famille à continuer à vivre de ses œuvres, nous devons contribuer. Comment contribuer? Tous les exploitants de terrasses, de bars, de restaurants doivent
les
payer
les radios, des télévisions, de nuit.
Doivent payer cette redevance-là. En payant cette redevance-là, on est sûr qu'à un moment ou à un autre, sa famille pourra se retrouver. Et il n'y a pas que sa famille, il y a aussi la famille des autres qui sont décédés bien avant lui et de ceux qui sont encore vivants. C'est la seule façon de compenser. C'est une sorte de solidarité, de mutualisation d'efforts pour soutenir la création. C'est ça l'intérêt de la gestion collective des droits d'auteur.
Voilà, donc pour mieux gérer les droits d'auteur, on parle des droits d'auteur et droits voisins.
Oui.
Les droits voisins, de quoi s'agit-il?
En fait, les droits voisins, c'est l'ensemble des règles qui concernent les prérogatives reconnues aux artistes-interprètes, aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion. On les appelle droits voisins parce qu'ils sont proches du droit d'auteur. En fait, les titulaires des droits voisins sont des auxiliaires des créateurs. Ils interviennent lorsque l'œuvre est déjà créée. L'artiste-interprète continue à donner la vie à une œuvre. Quand il joue des concerts, un musicien qui exploite un répertoire, il continue à donner la vie à l'œuvre. Mmh. Il y a aussi le producteur qui fixe l'œuvre sur un support sonore ou audiovisuel. Il donne la vie à l'œuvre parce que l'œuvre va continuer à survivre grâce à ce support. Mais il y a aussi les organismes de radiodiffusion, c'est-à-dire les chaînes de télévision et de radio qui diffusent les œuvres pour un grand public. Donc toutes ces catégories-là contribuent à animer l'œuvre, pour que l'œuvre survive, atteigne un plus grand public. C'est pour ça qu'on les appelle titulaires de droits voisins ou droits connexes séparés.
Et ces droits voisins reviennent toujours à l'artiste ou au producteur ou à ses auxiliaires?
Oui, il y a trois titulaires de droits voisins. Il y a l'artiste-interprète qui doit recevoir un cachet lorsqu'il joue un spectacle, c'est vrai, mais qui peut aussi recevoir une rémunération qu'on appelle rémunération équitable. Lorsqu'il a joué au studio pour la production d'une chanson, par exemple, lorsque cette chanson est diffusée à la radio, on paye l'auteur, lui aussi il a un pourcentage qu'on appelle rémunération équitable. Il y a aussi le producteur qui profite de cette rémunération équitable. Mais il y a l'organe de radiodiffusion, l'organisme de radiodiffusion, qui gagne aussi grâce à la diffusion de ces émissions. Mais les organismes de radiodiffusion ne sont pas concernés souvent par la gestion collective des œuvres parce que eux, ils ont la capacité de s'organiser individuellement. Mmh. Hein, les chaînes de télévision, avec les câbles distributeurs, ils peuvent signer des contrats, des accords pour gérer eux-mêmes leurs programmes, des émissions radiodiffusées ou télévisées. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais au moins, on peut retenir qu'il y a trois catégories de titulaires de droits voisins. Mmh. Les artistes-interprètes, les producteurs, et les organismes de radiodiffusion.
Et l'arrangeur au niveau du studio, est-ce qu'il peut aussi réclamer ses droits voisins?
L'arrangeur, c'est un créateur. À côté, dans le domaine de la création musicale, nous avons trois catégories de créateurs. Il y a les paroliers, les compositeurs et l'arrangeur. L'arrangeur, c'est lui qui arrange les sons, qui les place. C'est un créateur au même titre que les paroliers et les compositeurs.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a aussi les droits?
Oui, il a les mêmes droits que la loi ne fait pas de distinction. Il a les mêmes droits que le compositeur et le parolier. Maintenant, dans la pratique, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a beaucoup de comportements qui sont illégaux dans la pratique. Mais la loi dit clairement que l'arrangement, c'est une création. La composition, c'est une création. Et la création du texte, c'est une création.
Et surtout que vous dites que c'est une loi qui date de...
86. Oui, c'est une ordonnance de loi qui a été... diffusée en 86.
Qui est dépassée à ces jours avec les changements, l'évolution
oui,
des
bon,
choses.
Elle contient encore des normes qui sont conformes aux conventions internationales, mais elle est dépassée par l'évolution technologique et par les récentes normes internationales, ça c'est clair. Mmh. Mais ça continue à nous servir. Mais nous souhaitons vivement qu'on accélère le processus de la modification de ces textes pour que nous ayons une nouvelle loi qui soit conforme aux normes internationales.
Anselme Kayembe nous appelle de Manono. Bonjour.
Bonjour, Jeff. Bonjour à l'invité.
Oui, c'est Jody. Quelle est votre question?
Oui, moi, je voulais juste demander à l'invité de savoir. Il dit que non, il y a l'ordonnance loi pour les droits d'auteur pour les musiciens. Et maintenant, je voulais demander, en principe, si un musicien ou bien un artiste, il utilise les œuvres sans autorisation, bien il fait la photocopie sans toutefois qu'il soit autorisé par les propriétaires de cette œuvre. Et maintenant, est-ce qu'il y a des sanctions ou bien il n'y en a pas de sanctions? S'il y a déjà eu des sanctions ici, c'est nous en RDC, si tu peux nous donner l'exemple d'un musicien qui a été déjà suspendu pour ce problème de la photocopie, par exemple, des œuvres des notaires. Et je vous remercie.
Merci Anselme, Monsieur Théodore.
Bon, je dois avouer que les cas de décisions de justice qui ont été rendues en matière de reproduction illicite des œuvres, il n'y en a pas assez. Le seul exemple que j'ai trouvé, c'est les dossiers de l'artiste Blaise Boula, qui a cité en justice une société de téléphonie.
De la place, oui.
Oui, parce que cette société avait reproduit sa chanson sans son accord. Mais...
Et il avait trouvé gain de cause.
Oui, il a trouvé gain de cause. Il a obtenu une décision de condamnation contre une décision civile, bien sûr, de condamnation contre cette société qui a été condamnée au paiement de dommages et intérêts. Pour ce qui concerne la photocopie des œuvres, par exemple, des œuvres littéraires sur papier, la loi n'est pas très claire. En réalité, ça, c'est un cas de réprographie qui devait être renforcé. Normalement, on devait taxer les photocopieurs. Lorsque vous importez les photocopies, les appareils de photocopie, on prélève une redevance pour compenser le manque à gagner des auteurs dont les œuvres littéraires sont reproduites, par exemple, dans les universités et dans les instituts supérieurs. Mais cette règle n'est pas encore intégrée dans notre loi, d'où l'intérêt de la réforme.
Souvent, Maître Ngazi, c'est déplorable quand on voit à la télévision un artiste malade, grabataire, et on passe à la télé pour demander la générosité publique, pour attirer l'attention du gouvernement, afin qu'on puisse l'évacuer en Afrique du Sud ou ailleurs pour suivre les soins. Ça ne devait pas être ainsi.
Oui, ça ne devait pas être ainsi parce que la société des droits d'auteur n'a pas qu'une mission financière. Elle a aussi une mission sociale. Il y a des redevances comme la copie privée dont une partie pouvait servir à financer les activités culturelles et les missions sociales. Et grâce à cette redevance, on pouvait encourager la création d'une mutuelle de santé ou éventuellement organiser la sécurité sociale des artistes. Mais tout ça, ça passe par la gestion collective et par l'appui de l'État. Mais je crois que le ministère de la Culture et des Arts est en train de réfléchir sur ce genre de questions. Il y a même des projets d'arrêté qui sont en préparation pour mettre en œuvre la perception de la rémunération à la copie privée et voir comment on peut organiser en faveur des artistes une sorte de mutualisation. Il y a FASAEC qui existe, c'est un fonds d'appui aux artistes, mais qui n'a pas beaucoup de moyens et qui n'est pas très opérationnel. Je crois que c'est un débat qu'on peut ouvrir pour qu'on voit comment on peut aider les artistes sur le plan social. Mais ils doivent participer eux-mêmes et assurer un leadership dans ces débats-là. Il ne faut pas qu'ils subissent les débats.
Mmh. Voilà, il ne faut pas qu'ils subissent les débats. Par exemple, si Papa Wemba avait des contrats avec divers producteurs et qu'il y devait, aujourd'hui il n'est pas là, est-ce que c'est sa famille ou c'est la Sokoda qui doit suivre, qui doit faire le suivi de tout ça?
Bon, en principe, l'auteur est directement concerné par les contrats individuels qu'il signe lui-même. Lorsqu'il n'est pas là, c'est le liquidateur qui aura été désigné par la succession qui va engager la succession sur ce genre de questions. Mais il y a des aspects qui concernent la gestion collective. Là, c'est la Sokoda qui pourra intervenir, pas seulement en faveur d'un artiste, mais en faveur de tous les artistes vivants et décédés. Voilà.
Alors, la Sokoda, donc il y a beaucoup de choses à dire. Un auditeur nous a écrit, il dit ceci, c'est Junior Bompongo depuis Mbandaka. Il dit, pour ce qui concerne le problème de la piraterie, il faut reconnaître que personne n'est à l'abri de l'innovation technologique et de l'expansion brutale de l'Internet. C'est pourquoi il est d'urgence d'observer les règles relatives aux droits d'auteur, car il n'y a pas un crime plus grave que celui de s'approprier l'œuvre d'autrui sans moindre reconnaissance ou sans autorisation préalable.
Oui, là, en parlant de l'Internet, nous posons le problème de la cybercriminalité, mais limité à la reproduction des œuvres et à la communication publique des œuvres. L'Internet, c'est une forme de communication des œuvres à tout endroit et à tout moment. Elle pose beaucoup de problèmes. Elle pose le problème de la protection extraterritoriale. Comment intervenir lorsque l'œuvre se trouve dans l'Internet? Parce que là, même si vous agissez sur au niveau national, mais vous ne pouvez pas agir au niveau international parce que l'œuvre circule à plusieurs niveaux. Alors c'est pour ça qu'il faut que
L'œuvre est sur YouTube par exemple, il faut rencontrer les responsables.
Responsables, mais il faut aussi agir. Il faut qu'il y ait une loi sur les communications électroniques qui crée un système de responsabilité des fournisseurs d'accès Internet et des fournisseurs de contenu. Là, on peut agir à ces niveaux-là. On peut demander aux fournisseurs d'accès, aux hébergeurs des sites, lorsque les contenus sont illicites, et lorsqu'il y a une décision de justice, par exemple, de retirer ces contenus illicites de la circulation. Et là, sur le plan national, ça serait efficace. Mais il faut qu'il y ait aussi une collaboration au niveau international pour que tous les États aient un même niveau de protection des œuvres à l'Internet. Et cette collaboration pourra tant soit peu limiter la cybercriminalité dans le domaine du droit d'auteur au niveau national et régional. C'est un débat et nous espérons que le projet de loi sur les communications électroniques qui a été élaboré au niveau du ministère des Nouvelles Technologies, Information et Communication pourra aussi venir au moment opportun pour régler ce genre de questions.
Voilà, comment mieux gérer les droits d'auteur et droits voisins en RDC. Maître Théodore Nganzi, spécialiste en droits d'auteur et droits voisins, notre invité. Et vous avez dit que pour mieux gérer ces droits d'auteur, il y a des responsabilités à plusieurs niveaux, au niveau du gouvernement, qui doit revoir la loi, l'actualiser par rapport à tous ces changements au niveau par rapport à l'évolution technologique. Vous avez parlé de la société des droits d'auteur qui doit mieux fonctionner aussi. Elle est souvent minée par des conflits internes, des conflits d'intérêt, ce qui fait qu'elle n'arrive pas à bien fonctionner. Et les artistes eux-mêmes doivent s'unir. L'union fait la force, dit-on. Oui. Mais en reconnaissant nos artistes, et surtout nos artistes musiciens, ils sont très très divisés. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les ramener à la raison et les aider à mieux s'organiser.
Bon, ils ne sont pas tous conflictuels. Parmi eux, il y en a qui sont raisonnables et qui sont très engagé sur la cause des droits d'auteur. J'en connais et nous travaillons parfois discrètement avec certains d'entre eux, avec le cabinet du ministre de la Culture et des Arts, et on arrive parfois à faire avancer certains dossiers. On ne saura pas travailler avec tout le monde, c'est pas facile, parce que même en Europe, les droits d'auteur n'a pas évolué avec tous les artistes. Il y a toujours des leaders qui s'engagent. Et moi, je compte sur ces leaders-là, je ne voulais pas citer leur nom. Il y en a qui sont très réfléchis et qui sont très disponibles, qui acceptent de se battre pour les autres. Et je crois que c'est avec ces noyaux-là que nous allons arriver à obtenir des bonnes réformes, avec l'appui du ministre de la Culture et des Arts. On pourra arriver à des bonnes... Et il y a déjà des choses qui évoluent, parce que c'est grâce à l'appui du ministre de la Culture et des Arts qu'on a pu régler les conflits à la Sokoda, et maintenant la paix est revenue, c'est déjà une avancée, et maintenant on travaille avec les cabinets pour les projets de loi. Il y a un projet de loi sur la politique culturelle, il y a un projet de loi sur les droits d'auteur, il y a même un projet de loi sur le cinéma, il y a des textes réglementaires qui sont en préparation. Donc tout ça, c'est un ensemble de textes qui pourront assainir les secteurs, donner un nouveau cadre juridique. Et après, il y a des commissions qui se mettront en place pour aider les artistes à aller de l'avant. Et puis, il y a il y a des propositions de formation des artistes, tout ça. Donc l'ensemble de tous ces mécanismes et des stratégies pourront nous amener à améliorer le système. Donc, il n'y a pas de fatalité sur la question.
Ah, mais si on paye les droits d'auteur, cela revient uniquement à l'artiste, au leader, ou bien à tout le groupe? Parce que généralement, qu'est-ce que nous voyons? Les leaders sont plus ou moins bien rémunérés, bien positionnés, mais toute son équipe souffre généralement. Ces jeunes gens, ces jeunes artistes, et guitaristes et autres chanteurs, ils passent des moments difficiles.
Oui, là, c'est un problème de textes
réglementaires. Et parfois, ils sont réduits à la mendicité.
Il y a un arrêté ministériel qui date des années 73, qui avait fixé le barème de paiement des artistes pour les orchestres. Il a été proposé que ces textes-là soient révisés pour qu'on fixe un nouveau tarif.
Même barème
payer, parce que lorsqu'un orchestre joue un spectacle, après, tous les artistes qui sont intervenus doivent être rémunérés. Alors, il faut que l'État fixe un barème, un tarif minimum, un tarif maximum. Mais il y a aussi un autre problème, c'est la formation des artistes eux-mêmes. Il faut que l'artiste sache que lorsque je joue, je signe un contrat, la culture du contrat. Il faut qu'on les amène à cette culture-là. Il y a aussi un autre problème, c'est que les artistes, parfois, ils connaissent leurs droits, mais ils ont peur parce qu'ils se disent, si je résiste trop, le chef va me chasser et je ne saurais pas évoluer. Oui. Là aussi, il faut que l'État prenne des mécanismes pour soutenir le jeune talent, voir comment les aider à émerger, parce qu'au début, ils ne sont pas connus, ils sont fragiles. Ça aussi, c'est un problème de sécurité de la profession. Et ce sont ces genres de débats qu'on peut régler grâce à une bonne politique culturelle. Il faut qu'il y ait des lieux, des spectacles pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer, pour qu'ils ne soient pas trop dépendants des chefs qui les roulent et qui les sanctionnent et qui les exploitent. Et avec ce genre de politique culturelle, tous les jeunes à travers toutes les provinces pourront se retrouver. Mais là aussi, c'est une question de politique culturelle. Il faudrait que l'État réfléchisse pour voir quelles sont les stratégies qu'il faut mener pour protéger les plus faibles. Voilà, ça c'est.
Et normalement, nos orchestres devraient à un moment arriver à fonctionner comme étant des sociétés, comme des entreprises.
Oui, la finalité c'est celle-là. Il faut que pour qu'ils deviennent professionnels, il faut qu'ils arrivent à travailler comme sous forme d'entreprise. Mais l'État aussi doit jouer un rôle. Parce que s'il y a beaucoup de taxes, ces entreprises risquent d'être étouffées et de ne pas très bien fonctionner. Mais je crois que il y a eu un débat au niveau du secrétariat général pour voir comment transformer les associations culturelles en entreprises culturelles. Et ce débat-là se poursuit. Il faut qu'ils deviennent des entreprises. Et il y en a quelques-unes déjà, quelques associations culturelles, qui ont déjà accepté de se transformer en entreprises culturelles. Et avec des guichets au ADA, je crois que le guichet unique sur les entreprises, ça ne pose plus beaucoup de problèmes. En 3 jours, on peut devenir entreprise individuelle ou société à responsabilité limitée. Donc, une petite société peut fonctionner comme ça. Et une entreprise, en devenant société, devient performante parce que elle va adopter une culture managériale qui est différente d'une association culturelle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la SOCODA, cette société des droits d'auteur, devienne beaucoup plus efficace pour aider les artistes à tirer profit de leurs œuvres?
Il faut que le conseil d'administration qui dirige la société prenne l'engagement de la bonne gouvernance et de la transparence. Et pour cela, moi, je leur proposerai qu'ils fassent une formation sur la planification. Il faut qu'ils produisent un plan d'action pour la SOCODA et qu'ils aient une feuille de route pour accompagner leurs actions. Parce que lorsqu'ils continuent, s'ils naviguent à vue, ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Mais j'ai appris qu'il y a déjà une feuille de route qui a été préparée. Mais je crois qu'il doit...
Annuel ou sur 5 ans,
je crois que c'est sur
3
mois ou 5 ans, c'est à moyen terme, c'est ce que j'ai appris. Mais il faudrait vraiment qu'ils puissent rentrer dans la planification. Parce que si une société de droit d'auteur planifie correctement ses activités, avec un plan d'action cohérent, avec une feuille de route... Et avec un minimum d'accompagnement de l'État, il y aura moins de ratés. Les débats stériles vont cesser et on aura vers la gestion axée sur les résultats. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas refaire la roue, on ne peut pas inventer la roue. On doit imiter les autres. La gestion axée sur les résultats s'impose pour toutes les sociétés humaines. On n'a pas de choix. Donc les artistes doivent accepter cela. S'ils s'entêtent, on va retomber...
Là, ils doivent s'entourer des spécialistes.
Ils doivent s'entourer et ils doivent aussi, parce qu'ils ont un personnel là-bas qui est chapeauté par un directeur général, qui est un économiste, qui a une bonne formation de manager. Ils doivent l'écouter. S'ils s'entêtent, ils l'étouffent, ils vont rien faire. Il faut qu'ils l'écoutent et qu'ils travaillent en synergie avec leur personnel. Parce que très souvent, ils ont tendance à ne pas trop écouter le personnel technique qui travaille avec eux. Alors, c'est dangereux parfois. C'est ce qui est différent avec les grandes sociétés de droits d'auteur qui s'appuient sur le personnel technique. Et ce personnel doit aussi recevoir des formations spécialisées sur les questions techniques des droits d'auteur et sur la gestion. Parce qu'autrement, on ne peut pas évoluer. Et ça aussi, pour ça aussi, l'État doit agir. Parce qu'il faut que le ministère de la Culture surveille le conseil d'administration. Parce que les artistes, ce sont des libéraux. Hein, ce sont des libéraux, ils ont une liberté de pensée extraordinaire. Et si on ne les suit pas de près, ils risquent d'avoir des ratés. Il faut que les ministères surveillent de près le fonctionnement de ces sociétés pour l'accompagner correctement. Avec des rapports, avec des évaluations objectives, pour voir si on est dans la bonne direction, si on utilise des ressources rationnellement, ou bien si on fait des dépenses inutiles entre copains.
Il
faut qu'il y ait de la transparence et des rapports objectifs, la gestion comptable cohérente. Tout ça, c'est les défis. Et ça, c'est plus le conseil d'administration, pas le personnel. Parce que le personnel peut faire son travail. Mais les artistes, quand ils viennent, parfois certains d'entre eux ont des comportements assez irrationnels et parfois ils étouffent. J'ai fait confiance à l'actuel conseil d'administration qui est composé des artistes responsables. Hein. J'en connais beaucoup qui sont des responsables. Mais c'est une présomption de bonne foi. Il faut qu'ils confirment qu'ils sont des responsables pour accompagner correctement la société. Sinon, ça sera encore des erreurs qui vont se poursuivre. C'est pas correct.
Bien, Maître Théodore Ngandi Andoni, spécialiste en droit d'auteur et droit voisin. Merci.
Merci beaucoup.